Regard sur le judaïsme. Catherine Mann et Simon Martin. Un Romain vint trouver le sage Hillel. Il le mit au défi de le convertir et de lui enseigner toute la Torah pendant qu'il se tiendrait debout sur un pied. Gardant son calme, Hillel répondit : Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît. Telle est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Et maintenant, va et étudie. Cette petite histoire pourrait paraître paradoxale quand on sait que la religion juive est étayée par pas moins de 613 commandements, les mitzvot. Ces commandements règlent la vie quotidienne des juifs pratiquants, du lever au coucher du soleil, de la naissance à la mort. Et pourtant, la loi, Halakha, ne serait qu'un joug, un carcan, si elle n'allait pas de pair avec les récits, la Haggadah, récits qui expliquent cette loi, la commentent, l'interprètent, la discutent, l'actualisent et la gardent vivante. Ce qui fait dire au philosophe et rabbin Marc-Alain Waknin, la Torah est un texte, un tissu fait de fils narratifs et de fils prescriptifs, et supprimer l'une de ces deux catégories serait défaire la texture même de ce tissu. Catherine Mann, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Alors, nous abordons cette nouvelle série sur les rites et la tradition juive. Alors, pour commencer, comment faut-il comprendre cette volonté d'inscrire la loi, avec donc ses 613 commandements, mitzvot, au cœur même du judaïsme ?
Le judaïsme ne fait pas de division entre l'esprit et le corps, et pas de religion entre la foi et la pratique, et les œuvres. Vous savez ce qui divise tant les chrétiens, la foi ou les œuvres, c'est la même chose en judaïsme. Tout ce qu'on croit n'est digne de foi que s'il se vérifie dans la vie pratique. Alors la vie pratique, c'est quoi ? Ben, c'est toute la journée, je dirais même la nuit, toute l'année, et plus les fêtes. Et donc, l'idéal du judaïsme, c'est qu'il n'y ait aucun acte qui ne soit pas religieux. Donc les commandements, ils sont là pour rappeler sans cesse, prie Dieu, réponds à la volonté de Dieu, fais ce que Dieu te demande, etc. Toute la journée, alors 613 commandements, mais aussi toutes les prières qui remplissent.
Oui, on l'avait dit dans une précédente émission, mais le verbe le plus utilisé dans la Bible, c'est le verbe « faire ».
C'est très important, on ne devrait pas dire une orthodoxie, on devrait dire une orthopraxie. Les vrais orthodoxes sont ceux qui mettent en pratique. Cela dit, le christianisme en principe c'est la même chose.
Oui, alors Hélène Hadas-Lebel, dans son livre sur le judaïsme et les pratiques faites et symboles, écrit « C'est l'action qui fait naître la spiritualité et non le contraire ».
On ne croit pas beaucoup à la spiritualité, à part quelques mouvement un peu particulier, mystique, mais toutes les spéculations n'intéressent pas les juifs, parce que ce qu'il faut, c'est réparer le monde, ce qu'on appelle le tikkun olam. Tikkun, ça vient de l'idée de réparer de la chute originelle, en fait. On est là pour se racheter en tant qu'humanité et faire remonter toute la création de ce que le péché originel l'a fait chuter. Il faut faire remonter vers Dieu, tout ça. Donc il faut sanctifier le monde, on est responsable de tout. Et rien, ni de l'être humain, ni de ce qui est dans le monde, n'est absent de cette volonté de restauration du paradis perdu. On est responsable. Alors ça se marque par les petits gestes de la vie quotidienne. Tout doit être sauvé, sanctifié. On peut analyser tout ce qui se passe d'une journée, on le fera d'ailleurs, d'une journée type. Quand il n'y a pas une action, c'est qu'il y a un office liturgique qui est aussi une action.
Oui.
La prière est aussi une action. Il faut reconnaître que c'est mis dans les œuvres, parce que c'est de la prière ensemble, communautaire, et puis réciter, ça fait avancer les choses quand même.
Alors pour essayer, Catherine Mann, de comprendre ce cheminement vers la spiritualité par l'action, il y a cette histoire de Moïse, moi, qui m'a fait réfléchir. On sait que Moïse brisa une première fois les tables de la loi en voyant que le peuple d'Israël avait dressé un autel au veau d'or, en montant une première fois sur le Sinaï, alors qu'il était lui-même en grande discussion avec Dieu. Or, il y a une tradition qui rapporte que les tablettes brisées auraient contenu les secrets de la Kabbale, c'est-à-dire un enseignement spirituel. Et au bout du compte, ce sont donc les fameux 10 commandements qui sont adoptés. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que l'homme n'est pas capable de s'élever spirituellement sans la pratique et l'observance des lois? Est-ce qu'il y a une idée comme ça de...
Oui, de toute façon, on en avait déjà parlé à propos de l'étude. Même la Kabbale ne peut pas s'aborder sans une très très grande maturité et intellectuelle et pratique. Et on considère que peuvent faire la Kabbale ceux qui ont déjà atteint un degré de sainteté personnelle.
Il faut commencer à l'âge de 40 ans.
Oui, pas. Et puis même, oui, c'est ça. Il faut déjà être très âgé et puis très très encadré et avoir fait. Moi, je dirais ces preuves, enfin l'épreuve, comme on dit, la mise à l'épreuve. Moïse, il n'a pas laissé rentrer le peuple dans la terre promise tout de suite. Hein. Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans et dans le désert. Et c'est une mise à l'épreuve. Dieu donne tout, mais tâte le terrain pour voir si on est capable ou pour éduquer, pour qu'on soit capable.
Et... C'est une forme de clairvoyance par rapport aux capacités de l'homme ou
J'ai une éducation. L'éducation juive, elle est non seulement pour les enfants, mais pour les adultes. On n'a jamais fini d'étudier, de se préparer, de grandir, d'apprendre des autres. Et la communauté tout entière doit grandir dans une certaine direction. Et on est tous responsables les uns des autres. Moi, je vois plus comme une pédagogie divine. Le peuple, c'est un peuple choisi pour quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peuple élu pour un service. Il est, on le dit dans la Bible, le peuple saint. Alors, saint, kadosh, ça veut dire mis à part. Ça ne veut pas dire que c'est un peuple supérieur. Ça veut dire un peuple choisi pour une tâche particulière dont, justement, Dieu se préoccupe en éduquant ce peuple. Alors, on ne comprend pas tout, hein.
Oui, alors il y a des commandements qu'on ne comprend pas.
Ah, il y a des choses qui sont appliquées aveuglément.
Appliquées aveuglément, mais il y en a peu.
Ouais, mais on les accepte en disant on n'est pas encore capable de comprendre, on comprendra peut-être un jour. Et de toute façon, ce qu'on ne comprend pas, c'est fait pour nous distinguer des peuples païens. Voilà, peut-être que c'est juste une espèce d'originalité pour justement montrer la tâche spécifique du peuple élu.
Je reprends ce que disait Mark Alan Wakenin, c'est-à-dire que sans le récit de la loi, c'est l'interprétation, le commentaire, la loi serait un vrai carcan, quoi, une espèce de joug. Et j'imagine qu'elle n'a pas été faite pour que...
Pour faire souffrir.
Voilà, ni pour faire souffrir, ni pour que le juif soit esclave d'un texte aussi sacré soit-il.
Tout dépend encore une fois de la maturité de celui qui applique les mitzvot, hein, mais celui qui est un tantinet mystique, il vous dira que appliquer la règle, c'est se mettre en relation avec Dieu, c'est source de jubilation, de joie, de bonheur. C'est même le psaume 119 le dit, dans la loi, je mets mes délices. Il n'y a pas plus grande joie que de faire ce que Dieu demande qu'on doit faire, même si on ne comprend pas. Évidemment, ça rend le peuple juif un petit peu bizarre, parce qu'il y a des commandements. J'ai amené la Bible de l'humour juif, parce que je voulais quand même garder la tradition des petites blagues.
C'est vrai.
Je vous lis donc. À la fin d'un bon dîner, Joseph dit à son vieil ami Cordier, qui est bossu, « Mon cher Cordier, voilà 20 ans que nous travaillons ensemble. Mais maintenant, je veux vous faire une confidence que j'aurais peut-être voulu vous faire plus tôt. Quoi donc, mon cher Joseph? Eh bien, Cordier, je suis juif. Eh bien, mon cher Joseph, confidence pour confidence, moi aussi, je vais vous dire un secret. Je suis bossu. Ce qui veut dire qu'être juif, c'est aussi évident qu'un bossu est bossu, parce qu'il se comporte tellement bizarrement. Comment voulez-vous que ça ne se reconnaisse pas? On ne fait rien comme tout le monde. La blague la plus connue, c'est quand même fermer le magasin le samedi, quoi. Vous vous rendez compte, le samedi, c'est le jour où il y a tous les gens qui vont faire leurs courses. Ça n'a aucun sens de fermer le magasin le samedi, parce que c'est là qu'on pourrait gagner sa vie. Donc les gens qui font ça, ils se singularisent, en tout cas, ils se signalent par... Mais Ça fait partie de l'élection, être différent. Alors pourquoi ? Je ne sais pas, pour signifier peut-être un message. Quand on voit l'histoire, quand même, c'est le peuple juif qui a transmis l'idée du Dieu universel, celui qui est à la racine du judaïsme, mais aussi de l'islam et du christianisme. C'est Dieu unique, Dieu universel. Avant, ce n'était pas comme ça. Hein.
Oui, et Hélène Alas-Lebel, dans son livre « Le judaïsme », va aussi un peu plus loin. C'est, donc la loi est une réponse juridique à des questions, mais c'est presque une éthique aussi. Et ça conduit presque à une politique également.
Ah oui,
dans
lequel, éthique et politique,
on,
ben, ça,
on est
c'est
tout
le
à fait
chemin.
Inspiré.
Ben, l'incarnation, elle est là. Il faut effectivement le code moral. Ben, les 10 commandements, ce qui reste, c'est à fonder l'éthique de beaucoup de nations.
De beaucoup de nations, c'est ça, exactement, oui.
Et moi, je dirais que même le Shabbat, ça c'est aussi une éthique. Puisque ça fait un jour de congé par semaine.
Ça paraît d'une modernité incroyable. Il y a déjà 2000 ans, même plus de 2000 ans.
Le droit au repos.
Le droit au repos, oui.
Même pour les animaux.
Même pour les animaux et même pour la terre. Une espèce d'écologie avant l'heure avec
oui.
Une terre qui doit être mise en jachère la septième année.
C'est pour ça que les commandements des mitzvot paraissent parfois absurdes, mais parfois on comprend des centaines d'années après. Mais on met en pratique. Il faut beaucoup d'humilité. Alors ça, c'est quand même, on parle des orthodoxes. En faisant un portrait un peu idéal, hein, parce que 613 mitzvot, les appliquer tous, j'ai un gros doute. Hein.
Alors, vous avez prononcé, Catherine Mann, le mot orthodoxe. Il faut quand même, oui, donc nuancer notre propos, parce que le judaïsme n'est pas monolithique. Il y a plusieurs courants.
Ben oui, à cause de la difficulté, et puis aussi à cause des mutations historiques. Hein, ce qui était vrai du temps de Moïse n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, entre-temps, il s'est passé plein de choses. La modernité a changé pas mal de choses. La tradition devenait un peu lourde. Alors, ben, vous avez eu l'émancipation de ce qu'on a appelé à la fin du 19e siècle la réforme, enfin, la naissance du judaïsme libéral.
Libéral.
Alors, effectivement, qu'est-ce qui change là-dedans ? Ben, beaucoup de choses. Aujourd'hui, même dans le mouvement libéral, vous avez même des femmes rabbins.
Donc, les même femmes, en France, hein, y en a une au moins.
Il y en a deux, en France. Et elles sont donc admises à la prière. Elles portent un châle de prière, une kippa. Enfin,
Il y en a beaucoup aux États-Unis.
Il y a des audaces et des innovations dans le judaïsme libéral. Et à l'autre bout, je dirais, il y a les ultra-orthodoxes qui ne changent rien depuis la nuit des temps. Et entre les deux, bah, il y a des orthodoxies... plus ou moins intense, les conservateurs, le mouvement Ma Sortie, qui est traditionnel, mais pas... Il y a les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, les orthodoxes, et puis les conservateurs. Donc c'est une échelle de... Puis après, il y a toutes les choses de la modernité. Les judaïsmes très contemporains, celui du reconstructionnisme que je connais très mal, qui... se rapporte à un théisme un peu abstrait, puis surtout le développement des dernières années, Finkelstein, etc., le judaïsme scientifique. Alors celui-là, il ne croit que ce qu'il voit, donc il se base uniquement sur ce que l'archéologie démontre. Alors inutile de vous dire qu'il ne reste pas grand-chose. Hein. Et même, il y a un judaïsme totalement athée, qui devient uniquement, justement, moral, éthique et politique.
On se souvient, on nous en a parlé dans les précédentes émissions, dès les premiers temps du judaïsme, de toute façon, il y a eu des courants différents. On avait parlé des sadducéens, pharisiens, esséniens.
Il y a toujours eu.
Il y a toujours eu. Hein.
Toujours.
Mais contrairement au christianisme...
Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Toutes les religions en sont là.
C'est ce que j'allais dire, oui. Mais contrairement au christianisme, il n'y a jamais eu de schisme au niveau du judaïsme.
Ah non. Mais parce qu'il n'y a pas de théologie. Avec quoi je veux dire, pas de théologie centralisée. Il n'y a rien de centralisé. Vous pouvez toujours faire dissidence sans faire un schisme. Il y a le refus d'une unité qui ferait totalitarisme. Quand il n'y a pas de totalitarisme, il n'y a pas besoin de faire de schisme. Ça devient simplement des points de vue différents. Et même quand on a un point de vue différent, on n'est pas rejeté. On reste dans le débat global du judaïsme, qui est une religion de débat.
Radio Grand Ciel. Catherine Mann, venons-en aux rites et fêtes dans la religion juive, après cette longue introduction, qu'on peut diviser alors en trois catégories.
Oh ben, je ne sais pas s'il faut diviser en trois catégories, mais il y a ceux qui sont grosso modo les grandes fêtes du temps liturgique, l'année divisée en grandes fêtes. Alors, bon, qu'on connaît bien Pâques et Pentecôte, puisqu'on en a hérité en christianisme. Mais il y a aussi tous les rites de la naissance jusqu'à la mort, quoi. La circoncision, la bar mitzvah et le mariage, enfin, tous les rites de la vie courante. Et puis, il y a, je dirais, la grosse, grosse partie, enfin, c'est mon point de vue, mais c'est ce qui est les rites de la vie quotidienne. Parce que c'est vraiment du matin au soir. Dès qu'on sort du lit, c'est ablution, prière, règles d'alimentation, règles de vêtements, règles de comportement, règles de... Voilà, tout est codifié dans la journée. Alors ça paraît très très lourd, et encore une fois, tout le monde ne fait pas tout, pas forcément par conviction, mais aussi matériellement, tout n'est pas possible. C'est ça qui est terrible.
Et puis chaque époque apporte son nouveau lot de questions qui doivent, j'imagine...
D'urgence, il y a toujours
une l'électricité a apporté des nouvelles questions et peut-être des nouvelles... des nouvelles lois, parce qu'on ne peut pas en rajouter, mais
non,
en tout cas des nouvelles interprétations.
Des nouvelles interprétations, puis des nouvelles hiérarchies d'urgence. Quoi. Qu'est-ce qui est plus important, c'est de faire ceci plutôt que cela. Ouais.
Alors, elles sont au nombre de 613, ces mitzvot, ces lois. Alors, 613, j'imagine, le chiffre n'est pas pris au hasard.
Ben, il est pris dans la Bible. Déjà, ce sont que des citations bibliques. Donc, il faut déjà connaître toute la Torah et repérer les versets qui peuvent devenir une loi à appliquer. Parce que c'est évidemment pas que les 10 commandements.
Ces lois sont pas forcément écrites. Enfin, on peut interpréter un verset.
On interprète un verset
et en faire une loi.
Et il en devient une loi.
C'est pas forcément marqué. Il ne faut pas faire ceci ou cela ou d'accord.
Ben non. C'est sûr que je peux peut-être donner quelques exemples. Dans les lois négatives, dans le Lévitique, chapitre 19, on trouve « ne pas embarrasser les autres », voilà, ou « ne pas opprimer les faibles », ou « ne pas parler désobligeamment aux autres », dans Lévitique aussi. Voilà. Tout le livre du Lévitique n'est que de petites lois pour la vie quotidienne, mais aussi l'Exode, le Deutéronome, plus tout. Enfin, on peut trouver toujours des raisons par exemple, il est interdit pour une femme de mettre un vêtement d'homme, il est interdit pour un homme de mettre un vêtement de femme. Alors, dans l'ancien temps, ça allait jusqu'à la lapidation. Il en restait quelque chose du temps de Jeanne d'Arc, si je peux dire, puisque Jeanne d'Arc a été brûlée parce qu'elle mettait des vêtements d'homme. Mais alors, de nos jours, quoi ? On ne va pas brûler les femmes qui mettent des pantalons. Hein, donc, mais on trouve ça quelque part dans la Bible. Je pourrais vous le trouver, mais là, ça ne me vient pas. Mais il faut de toute façon réinterpréter et adapter à la vie d'aujourd'hui. Et c'est ça le boulot du rabbin, en principe. Hein. On va consulter. Dès qu'il y a un doute, on dit pourquoi.
Alors, ces 613 mitzvot, ça correspond aussi. Le chiffre correspond à quoi ?
Il le divise en 365 interdits, donc il y a beaucoup d'interdits. 365, vous avez reconnu, c'est le nombre de jours qu'il y a dans l'année. Donc symboliquement, ça veut dire que tout ce qui est de la temporalité, le temps, doit être sanctifié et complètement investi. Et donc il reste 248 observances, donc des lois positives. Honore ton père et ta mère, donc c'est des commandements. Et c'est, disent-ils, un chiffre qui représenterait, à une certaine époque scientifique, les 248 organes du corps humain. Enfin, organes, morceaux d'os, ou je sais pas, enfin, ils comptaient, mais ça, symboliquement, ça veut dire que c'est la personne tout entière, parce que c'est pas que le corps physique, évidemment. Donc, de 365 plus 248, ça fait 613.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, avec le noyau central de la vie d'un juif, c'est la famille.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que pour certains, la famille est le premier lieu où se vit, et pour d'autres, je dirais plus donc, les côtés ultra-orthodoxes, c'est pas la famille qui est le premier lieu, c'est la synagogue.
Évidemment.
Moi, je dirais, bah, prenons qu'il y a deux lieux d'égale importance, la synagogue et la communauté ou le monde extérieur et la vie intérieure, la vie de famille. Ils ont au moins la même importance parce que, effectivement, Il n'y a pas de judaïsme si vous n'avez pas de descendance juive.
Oui, ça c'est aussi
donc il faut soigner. Hein, ouais. Et non seulement il faut faire des enfants, c'est un commandement, mais il faut en faire de bons juifs.
De bons juifs.
Parce que l'idée de perpétuer la religion, elle est fondamentale. Alors comment faire de ces enfants des bons juifs? Ben, faut bien les éduquer. Il faut qu'ils soient heureux en judaïsme, sinon ils vont...
C'est pour ça qu'il y a aussi autour de l'enfant, il y a quelque chose de véritablement sacré dans la relation avec l'enfant. Hein.
Oui, c'est pour ça que la femme est consacrée.
Alors, voilà.
À s'occuper de la famille, de la maison et des enfants. Voilà.
La femme est au centre du foyer, donc on pourrait croire qu'elle est mise sur un piédestal presque, parce que du coup ça devient très important.
Pour certains, c'est considéré comme un piédestal.
Mais ceci dit...
Encore une fois, pas pour les ultra-orthodoxes. Ouais. C'est la vie domestique pour eux, c'est le...
Voilà. Car ceci dit, donc elle n'a pas le droit, a priori, ni d'étudier, ni d'aller à la synagogue.
Elle n'a pas besoin.
Elle n'a pas besoin, c'est ça, voilà.
Et c'est encore une fois, elle n'est pas obligée de faire tout. Elle est dispensée de tout ce que doivent faire les hommes. Ça dépend encore une fois de quelle communauté juive on parle. C'est présenté de manière très différente selon les communautés. Bah, certains vous diront, elle a des devoirs particuliers qui de grande sainteté et ce qui explique que
comme l'éducation des enfants, par exemple. On vient de le dire, qui est le summum de la vie,
c'est
l'importance
sommet,
en tout cas,
oui.
Ouais, le sommet. Ouais.
Mais pas seulement, hein, puisqu'elle doit s'occuper des tâches domestiques et elle doit s'occuper de l'alimentation.
Alors il y a trois devoirs en particulier qui incombent à la femme.
Oui, alors le plus connu, c'est allumer les bougies le jour de Shabbat. Tout le monde a cette image de la femme qui met ses mains devant les bougies pour ne pas voir trop tôt la lumière. Elle a une petite bénédiction à dire en allumant les bougies de Shabbat. Elle doit respecter les lois de pureté conjugale. Donc ça, vous trouvez tout ça dans le Lévitique, si ça vous intéresse. Mais il y a des jours d'abstinence et des jours de purification pour la femme, et il faut respecter ça à la lettre, ce qui est très important pour le couple et pour la famille. Et puis, il y a une troisième petite obligation, qui aussi, elle est importante chez certains, pas importante chez d'autres. C'est du temps où, effectivement, la femme faisant la cuisine toute pâte, elle fabriquait la pâte, et on devait au temple donner 10% de la pâte au Kohen, au prêtre. Alors, il n'y a plus de temple, il n'y a plus le sacerdoce du temple, mais on prélève toujours 10% de quand on fait encore de la pâte, parce qu'il y a des femmes qui ne font plus, qui l'achètent au magasin. Mais on la brûle, symboliquement, en mémoire du temple.
C'est ça toute la difficulté d'être orthodoxe ou ultra-orthodoxe, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à suivre des traditions qui...
Mais on transpose.
Qui sont compliquées parfois de nos jours, quoi, évidemment. Hein.
Bah, oui, il y en a qui sont...
Alors que chez les libéraux, on tend plus vers une égalité homme-femme.
Bah, oui, une adaptation au monde moderne. Mais enfin, l'évolution de la société est telle que la femme n'est plus considérée comme uniquement reléguée aux tâches domestiques. Cela dit, on trouve chez les orthodoxes, ultra-orthodoxes, des hommes qui sont en prière toute la journée ou à l'étude à la synagogue et qui n'ont pas de métier. Donc non seulement la femme, elle doit faire toute la vie domestique, l'éducation des enfants et gagner la vie de la famille. Et ça se voit quand même encore beaucoup chez les ultra-orthodoxes. Toute la vie matérielle incombe à la femme.
Oui. Alors, nous l'avons dit, pas de célibat, a priori, dans le judaïsme.
Non, c'est un interdit.
C'est un interdit.
Enfin, un interdit. Non, c'est plutôt une obligation de se marier et de faire des enfants. Donc, s'il y a quelqu'un qui est célibataire, il est dans une anormalité. Mais il y a toujours eu des consécrations particulières, on les voit même dans la Bible. Le naziréat est une forme de consécration, mais en général, c'est momentané. Et peut-être qu'il y a des exceptions, j'arrive plus à dire, comme certains prophètes à qui on ordonne d'être célibataire, c'est comme Jérémie, quoi. Hein, donc, mais du coup, Jérémie est le modèle parce que il est malheureux. Ne pas se marier pour un juif, c'est signe de malheur.
Alors nous avons vu donc la procréation, la responsabilité de l'éducation des enfants et les femmes bien sûr au sein du foyer juif, l'alimentation est extrêmement importante.
Oui, les lois alimentaires, dans l'ordre des lois à appliquer, on met la hiérarchie en trois, les péchés contre l'alimentation.
Ça peut paraître étonnant, ça.
Mais non, parce qu'on devient ce que l'on mange, quoi. C'est toujours l'idée, si vous mangez des choses impures, vous devenez impur, et que ça fait déraper tout le bonhomme s'il mange des choses impures. Alors, manger des choses impures, c'est manger, par exemple, du cochon ou du lapin. Maintenant, en quoi manger du lapin rend impur ? On applique et puis c'est tout, on ne discute pas. Mais encore une fois, il y a plein de juifs qui mangent du cochon et qui sont pourtant des bons juifs. Hein. Comme dit la petite blague, on peut se sacrifier pour Israël et quand même manger du cochon. Hein. Parce que ce qui est important, c'est, encore une fois, c'est ce qu'on peut faire dans la situation où on est et la manière dont on gère tous les commandements avec l'urgence du moment et la hiérarchie des urgences, quoi.
Oui, qui passe avant le respect de la loi, bête et méchant, quoi, évidemment.
Ouais, encore une fois, tout est
selon les
circonstances. Ouais. Mais par exemple, le Shabbat où on est interdit de travailler, interdit de rien faire, chez les ultra-orthodoxes, vous aurez des interprétations qui sont assez terribles. Moi, j'ai connu dans mon enfance une famille où la femme a eu le malheur de perdre les os et de devoir accoucher un jour de Shabbat, et dont le mari n'a pas levé le petit doigt, il l'a pas conduit dans la maternité, rien, et elle a dû se débrouiller toute seule, elle a accouché seule dans sa cuisine, parce que c'était Shabbat. Alors, c'est les sommets de l'application
à la lettre, là.
Pour et, coup, et en fait, le judaïsme modéré ou conservateur, mais modéré, évidemment, vous diront que ce qui prime, c'est la vie. Et que même s'il n'y a pas droit de faire certaines choses, c'est un peu ce que Jésus est venu rappeler aux Juifs aussi. Enfin, ce n'est pas parce que c'est Shabbat qu'il faut laisser mourir les autres. Enfin.
Oui. Alors, nous allons, notre émission touche à sa fin. Nous allons quand même terminer sur les lois alimentaires qui sont d'une complexité incroyable, parce qu'il y a aussi certains aliments qu'il ne faut pas mélanger entre eux.
Jamais mélanger la viande et les laitages. On ne mélange pas l'enfant et la mère, hein, le lait de sa mère. Donc, mais c'est très compliqué parce que non seulement c'est deux cuisines séparées, mais c'est deux vaisselles séparées. Dans une cuisine, il y a toute la vaisselle qui touche la viande et toute la vaisselle qui touche les laitages. Ça ne doit jamais se mélanger. Alors, c'est d'une complication. Et vous avez encore une troisième vaisselle pour le Shabbat qui doit être sacrée. Et puis, si vous avez l'hospitalité un peu large et que vous invitez chez vous un païen, tout ce qu'il a touché comme vaisselle au repas, il doit partir avec dans son kabbat.
Ça coûte cher à force.
Ça coûte cher, mais non, c'est très compliqué.
Donc la femme est bien au centre du foyer. Et donc, a priori, chez les orthodoxes, ultra-orthodoxes, elle ne travaillera pas
Oui, sauf si le mari refuse de travailler.
Ça, c'est le mari.
C'est ce qui arrive.
En tout cas, elles ont double peine, entre guillemets. En tout cas, elles font des doubles journées.
Oui, et souvent, malheureusement, quand c'est comme ça, c'est toujours considéré comme une tâche inférieure. C'est l'alibi. Toutes les tâches inférieures sont laissées à la femme parce qu'elle est inférieure. Il y a encore, dans les milieux ultra-orthodoxes, l'idée que la femme... elle est l'héritière d'Ève et qu'elle doit rester à sa place en tant que germe du péché, issue de la côte, donc deuxième place. Et puis, il y a une espèce de racisme parfois encore. On le voit en Israël, la vie des femmes ultra-orthodoxes, elle est très, très, très dure.
Très dure, oui. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Catherine Mann, notre tradition, c'est de proposer à nos auditeurs un livre. Sur les rites et pratiques, il doit y en avoir beaucoup. Hein,
vous savez, dans les classiques de orthodoxes, enfin, de Ernest Guggenheim, Le judaïsme dans la vie quotidienne, chez Albin Michel, mais ce n'est pas un livre tout neuf, hein, c'est un livre... qui a 1970 environ, mais enfin il doit être réédité, ou bien de toute façon on le retrouve pas d'occasion, mais c'est intéressant, il est très complet.
Et moi je vous ai cité le livre d'Hélène Hadass Lebel, Le judaïsme, pratique, fête et symbole, aux éditions Presse de la Renaissance. Merci beaucoup Catherine, et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir Cynique.